je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
RMC.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là, de retour en direct, comme tous les soirs, bien sûr, l'After, vous le savez, à la radio sur RMC, vous le savez, à la télé sur RMC Sport News, et vous le savez, disponible en podcast 24-24 sur toutes les plateformes performantes. Évidemment, l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Jérôme Rotten est là ce soir, salut Jérôme.
Salut Gilbert, salut à tous.
Faudra qu'on reparle de tes prestations de chanteur tout à l'heure, ça a été une catastrophe.
Quoi, catastrophe?
Daniel Riolo est là également, salut Daniel.
Salut les amis, je suis un peu fâché quand même. Hein.
Pourquoi?
Cette prestation en Ligue des Champions des Parisiens.
Oui, on va en reparler dans quelques instants.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Absolument terrible. Ouais. Heureusement.
Il y a peut-être une remontada.
La soirée est un peu rachetée par la prestation de Saint-Vincent-les-Grenadines qu'on gagne ce soir.
Ah!
2-1.
Mmh. Ah bon?
Oui, avec un but de Kinningham, notamment, j'avais demandé au sélectionneur de le prendre.
Comment tu dis, Saint-Vincent?
Les Grenadines.
Et les Grenadines.
Et les Grenadines.
Oui, Saint-Vincent, les Grenadines. Non, vous venez de l'entendre.
Déjà, pourquoi on t'a pas présenté, toi, encore?
Il connaît tous les pays affiliés.
Mais ça fait tellement ça fait longtemps que t'es pas venu.
François Manardo, messieurs, dames. Salut, François.
Bonsoir, les amis. Bonsoir, effectivement. Pour préparer cette émission, quand j'ai écouté notre ami Jérôme Breton pousser la chansonnette, je dois dire que ça m'a fait déjà ma soirée. Quel bel organe, Jérôme.
Attention, ce soir, l'événement, avec François et avec vous, messieurs, l'événement, c'est que l'After reçoit l'homme qui a théorisé avec brio le match de football à la télévision. Jacques Blosiszewski sera avec nous tout à l'heure. 30 ans de boulot sur le sujet, quand même, c'est pas rien. Pour en arriver à la conclusion suivante... La VAR tue le football, bien sûr. Donc on l'aura avec nous tout à l'heure. Et évidemment, on s'est dit, bon, qui dans la famille de l'After a toujours défendu la vidéo? François Manardo et Jérôme Rotten, qui parfois se posent des questions, parfois se disent, tiens, est-ce que ma position initiale est la bonne?
Et comme tout,
pourquoi
comme
tu,
tous les...
Pourquoi tu
je vous donne rendez-vous, messieurs, à minuit. Je vous donne rendez-vous à minuit.
Comme tous les grands penseurs, ils doutent, c'est normal. Ils se remettent en question.
Déjà, pourquoi tu parles à ma place? Ils doutent, tu le sais, toi?
Bah bien sûr, je te connais pas. Bah évidemment.
Mais non, mais écoute, je défends quelque chose qui peut améliorer des choses dans le football, c'est tout. Après, faut laisser le temps au temps.
On en reparlera tout à l'heure à 23h. Également au programme ce soir, donc les réformes de Gianni Infantino. François va pouvoir nous en parler, le président de la FIFA. Alors, est-ce que c'est un visionnaire, un génie, ou alors un dingo avec sa folie des grandeurs? On en parlera tout à l'heure ensemble.
Il y a que François qui a les réponses à ça.
L'équipe de France, à la veille de son match en Moldavie, bien sûr, toutes les infos.
Top.
Je vous parlerai également des aventures de Cristiano Ronaldo, Eddie Cardi qui est de retour à l'Inter. Et puis les directs, Julien Laurence qui est allé voir les Chelsea Ladies face au PSG ce soir en quart de finale de Ligue des Champions. Salut Julien.
Salut à tous.
Bon, c'est fini. Et c'est une défaite encore une en Ligue des Champions pour Paris.
Ouais, et c'est une grosse déception, hein, vraiment. Tant par le score déjà, cette défaite 2-0. Des buts en fin de match, 73e pour la frappe de Blundell et 88e pour le 1 contre 1 pour le but du break, le 2-0. Chelsea qui a aussi tiré sur le poteau, une tête de Ingle sur le poteau. Avant ça, qui avait eu. Bref, elles ont eu les meilleures occasions du côté du PSG. Très peu d'occasions.
Elles sont passées à côté, les Parisiennes.
Ouais, complètement. Je pense dans l'agressivité, mais aussi dans la créativité. Je suis pas convaincu par les choix d'Échafny au début de match, mais aussi en cours de match au niveau de ses changements, que ce soit tactiquement ou au niveau des joueuses qu'il a changé. Et c'est vrai que c'est une grosse déception. Hein. On le voyait sur le visage des filles. Et au contraire, Chelsea, elle, même s'il reste un match retour le 27 mars à Jean-Bouin, c'est vrai qu'elles ont vraiment l'impression d'avoir fait un grand pas vers les demi-finales de cette Ligue des Champions. Et elles ont raison parce qu'elles ont notamment en seconde période après les entrées en jeu de Fran Kirby et de Pacman. Elles ont vraiment été supérieures au PSG.
Très bien. Bon, bah voilà, il y a une remontada à faire, les gars.
Il vaut mieux le faire dans ce sens-là. Elles se sont dit, on va pas se prendre la tête, on va perdre le match. Allez, personne nous attend au retour.
Et peut-être syndrome Coupe d'Europe qui touche toutes les parties du club.
Une question, Daniel, vu que t'es spécialisé foot féminin.
C'est incroyable.
Le retour, il se joue dans quel stade? Je n'ai pas la réponse.
Il a dit.
Ouais.
C'est à Jean-Bouin.
Mais c'est ouais, Jean-Bouin.
Jean-Bouin.
Attends, hier je te dis que le PSG joue à Jean-Bouin maintenant les féminines et tu me crois pas encore. Non,
mais
24
ans. Mais si, je crois. Que vous avez tous
mais non, la preuve que non, tu me crois pas. Tu es encore en train de demander où ça va jouer.
Demande à Narbé. Jean-Bouin. Message à Narbé.
À Bernard, je sais pas s'il avait le droit de sortir du banc aujourd'hui, mais
ah oui, Bernard Mendy qui est adjoint du coach.
Il aurait dû prendre l'équipe aujourd'hui parce que en effet, Fofini était un petit peu à la rue.
Un autre direct, les gars, l'équipe de France de handball, l'équipe de France féminine de handball face à la Roumanie ce soir, c'est la Golden Cup, Julien Tellier.
Et c'est terminé, les Françaises qui affrontaient les Roumaines, c'était leur reprise 3 mois après leur titre de champion d'Europe, de championne d'Europe, et bah, cette reprise s'est bien passée pour les Françaises qui s'imposent assez largement 28 à 18 face aux Roumaines dans ce match de Golden League. Prochain match face à la Norvège et au Danemark, ce sera ce week-end à Boulazac pour les Françaises.
32-16, on vous attend. Merci Julien. 32-16, on vous attend pour débattre à tout instant dans l'after, bien sûr, concernant Gianni Infantino, concernant l'équipe de France face à la Moldavie, concernant la vidéo, n'hésitez pas à le faire. 32-16, c'est facile. Appelez-nous. Et puis le hashtag RMC Live sur Twitter et puis Direct Studio, bien sûr, sur l'appli gratuite RMC Sport. Vous téléchargez l'appli, vous avez toutes les infos. Et en plus, vous pouvez, en appuyant sur la petite radio en haut à droite, nous envoyer tous les messages que vous désirez. Messieurs, jingle Moldavie. Alors, vous vous souvenez pas de ce tube? Grand tube moldave.
Bah, grand tube moldave.
Le seul tube moldave.
Grand tube moldave.
Peut-être. Ce qui est bien, c'est que ce truc-là, après, tu l'as dans la tête toute la soirée.
Ah non, on l'entend pas très très bien, il faudra le mettre plus fort.
Tu veux le mettre plus fort?
L'équipe de France à Chisinau.
Pardon?
Vous avez vu l'équipe de France arriver à Chisinau avec une chose que je n'avais
pas fait. Elle nous a
Attends,
on a vérifié.
C'est moi.
J'aurais pu être trompé, t'as raison.
Mais... Ah ouais.
Voilà.
C'est n'importe quoi. Non, attention. Décryptage l'équipe de France. Que s'est-il passé
en débarquant à Chisinau? Il y avait de jolies Moldaves avec l'habit traditionnel. Elles leur ont offert des espèces de pain, des sucreries comme ça, bouffées aux joueurs. Moi, j'ai fait quelques descentes avec l'équipe de France. J'avais jamais eu ça comme comité.
T'avais jamais eu le pain et les sucreries?
Ah non, non, là, un truc à bouffer en descente. J'espère que c'est pas Marc Frattani qui leur a mis un coup de picou.
J'en étais sûr qu'il allait dire ça. Je le connais par cœur.
Je l'ai tweeté.
Pas compris.
Le honte. Bah, non, mais la récente déclaration de Frattani.
Ah ouais, d'accord.
Les
boissons et. Le jus d'orange
prolaté. Ouais, ou alors si c'est pas du jus d'orange,
oui. Didier Deschamps, on lui fait pas.
À Sofia, ils se sont refait un centre d'entraînement grâce à.
Jérôme, il avait fait un atterrissage.
Grâce à eux, quoi. Après un match de Coupe d'Or.
Mais pas ça. L'atterrissage compliqué.
Très, très.
Ça t'avait bien réussi, d'ailleurs.
Exactement.
Un but avec des moutons en guise de spectateur.
Ouais. On s'en serait passé quand même.
J'y étais, je te signale. Je ne suis pas un mouton. Voilà, monsieur. Aux îles Féroé.
Donc du pain et des sucreries, non? Ah oui. Mais du pain d'épices ou?
Je me souviens bien de toi à la soirée aussi.
Ah oui, il y avait Grégory Coupé aussi.
Vous étiez resté sur place. Vous étiez resté sur
un grand Grégory Coupé.
Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Il n'y a pas eu que lui. Il y a eu un grand.
Greg Coupé en soirée ne se manque. Greg Coupé en soirée ne se manque jamais.
Ouais, mais quand t'as connu Djibril Cissé en soirée?
Alors attendez, avant de parler de la Moldavie, j'aimerais juste qu'on reprenne Julien Laurence parce qu'il a une info à nous donner sur les ultras parisiens qui sont allés aujourd'hui à Londres pour soutenir les filles et ça s'est pas très bien passé, Julien.
Ouais, excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. La soirée avait donc aussi mal commencé pour le PSG puisque le car qui a amené les ultras, donc environ une cinquantaine d'ultras depuis Paris hier soir, quand les supporters ont voulu en descendre, ça s'est mal passé avec la police et les supporters ont été reconduits à la frontière par la police anglaise. Visiblement, les policiers, d'après ce qu'ils nous ont dit, hein, auraient trouvé un coup de poing américain et des fumigènes dans le car des ultras parisiens. Ça s'est donc très mal passé. Et la cinquantaine d'ultras venus de Paris n'ont donc pas pu assister au match et ont été refoulés à l'entrée du stade juste avant la rencontre. Donc mauvaise soirée pour le PSG du début à la fin, vraiment.
En même temps, s'ils étaient venus pour tant qu'à faire, tant qu'ils se fassent raccompagner, ça évite les emmerdes.
Merci Julien, bonne soirée. Allez, on y retourne. Jingle Moldavie. Alors. Il est catastrophé. Alors, Jérôme.
Je veux pas chanter là-dessus, Jérôme.
Alors, nos envoyés spéciaux, évidemment,
envoyer la compo, évidemment.
À Kishino, envoyer la compo. Loris dans les buts.
Kishino, on dit.
Oui, Kishino.
Ah, évidemment.
Ou Kishinao.
Exactement.
Voilà. Kishinao. Ouais. Petite ville sympa, bucolique.
Pourquoi
toi? Oui, je suis déjà allé. Avec notre ami Jean-François Pérez.
Tous ces pays-là, je suis assuré que Gilbert connaît toute cette zone. Là.
En Moldavie, c'est rare, quand même.
Eh oui, ils allaient partout.
Ah non, non, là, il n'y a pas un pays qui échappe à Gilbert.
Ah non, la Moldavie, c'est bon, évidemment, il n'y a pas de touristes, donc c'est génial. Moi, je vais dans les pays où il n'y a pas de touristes. C'est magnifique. Pays à touristes.
T'as fait la côte bulgare?
La côte bulgare, non, trop de touristes.
Ah, il y a déjà trop de touristes sur la côte bulgare.
Ah oui, Varna et compagnie, c'est.
Ah oui, d'accord.
Bon, donc Loris dans les buts. Varane Umtiti en défense centrale.
C'est pointu quand même.
Pavard, latéral. Attention.
Transnistrie,
alors on devait y aller, mais tu rentres pas comme ça en Transnistrie.
Ah bah ouais.
On voulait aller à Tiraspol, se balader, mais
ça, ça
non.
Toi, quand même. Non, mais en absence de touristes, le top que t'as fait, c'est quand même la Corée du Nord.
Exact. Ouais. Alors attention, parce que permettez-moi quand même d'oublier mes vacances et oui. Parlons de l'équipe de France.
Je crois que Daniel Loris,
Loris dans les buts.
Daniel, on a rien à faire de l'équipe de
Kisner. Bon, je te parle à toi, Jérôme. Loris dans les buts. Umtiti, Varane en défense centrale, Pavard bien sûr. Et attention, Digne s'est fait mal à l'entraînement.
Pavard bien sûr.
Indéboulonnable.
Digne touché à la cuisse pendant l'entraînement. Non, et là, attention messieurs, ce soir à 22h13, Kurzawa
est titulaire en équipe de France. Formidable. Bah, en même temps, il y a personne. Il y a pas d'arrière gauche en France, donc.
Au milieu.
C'est ça l'info finalement.
Au milieu, Pogba, Kanté, évidemment devant la défense. Et ensuite, on avance quand même une équipe très offensive avec devant 4 joueurs offensifs: Coman, Mbappé, Griezmann, Giroud.
Est-ce qu'on pourrait te demander une liste des arrières gauches de nationalité française dans le monde?
Bah ouais.
Ah non, mais c'est vrai.
Et si possible, tu inclus les doubles nationalités.
Bah, qu'elle soit la plus large possible. Ceux susceptibles de porter le maillot bleu. Faisons simple.
Moi, je propose que nos historiens nous envoient leurs propositions sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. Si vous avez quelques arrières gauches à nous proposer.
Mais Daniel, comme tu les comptes sur les doigts d'une main de lépreux, les bons arrières gauches qui méritent l'équipe de France, autant dire le plus possible.
Attends, excuse-moi, mais si, imagine, parce que c'est pas si dingue que ça, imaginez, quand Zava se blesse, enfin, avant de partir.
Sissoko. Peut jouer partout.
Non, mais avant de partir, donc t'aurais pu le remplacer dans le groupe. Oui. À ma vie.
Bah ouais.
Personne d'autre.
Bah non,
dis-moi, fais-moi la liste.
Roussillon.
Ah, Roussillon, il joue pas dans une défense à, non, mais je sais pas.
On me propose Maxime Pougé.
Oui, voilà, c'est dans la liste. C'est possible. Bah, et c'est ça les arrières gauche, excuse-moi. Et qui d'autre encore?
Bah là
en Ferland Mendy, mais il peut pas parce qu'il était blessé, bien d'accord. Sinon il serait arrivé avant la vie évidemment.
Ballon Touré, exactement. Bah oui.
Et pas vraiment arrière gauche.
Bah il joue comment, mais qu'est-ce que tu me racontes?
Ouais.
On part arrière gauche. Bah oui.
On me propose Patrice Evra. Non, ça c'est pas bon.
Non.
Pourquoi? Il a pas. Non,
c'est lui,
il a
arrêté. Ouais.
Roussillon est la proposition qui revient le plus.
Mais il a jamais été appelé, Daniel a raison. Donc la logique voudrait que ça soit à ma vie.
C'est à ma vie.
Ou alors tu fais monter un mec des espoirs. Mais les espoirs, ils sont en Moldavie aussi? Non?
Non.
Non. Ouais, donc non, c'est pas possible.
Alors après, il y a quelques, comment dirais-je, jusqu'au boutiste, comme chef, qui me dit attention, Laporte joue défenseur gauche à City, vu que Deschamps adore faire ça, pourquoi pas le faire jouer.
Il a déjà joué arrière gauche, Laporte.
Eh ben voilà.
Souvent.
Laporte aurait pu.
Souvent cette année. Ouais. Donc, mais Laporte, il l'appelle pas, on sait très bien pourquoi. Donc, ouais.
C'est fou quand même les arrières gauches, comme t'es obligé de trouver des.
Bon, après, tu joues à Moldavie, hein, tu pourrais te passer aussi d'un arrière gauche.
C'est pareil. Si Pavard se blesse,
bah c'est Sidibé.
Sidibé et après.
Bah arrière droit, il y en a quand même.
Après, tu tombes dans l'exotique, hein, quand même.
Ben non, arrière droit, tu peux avoir Malcuit qui joue quand même à Naples. Tu peux avoir
Dubois. C'est vrai, c'est bien, Malcuit.
Dubois, même s'il est moins bien là.
Non, t'as raison.
Quand Chirac joue à Benfica.
T'as raison, c'est plus simple. Oui, t'as raison. Pardon.
Ouais, arrière droit. Mais même arrière droit, moi j'étais choqué. C'est un grand mot.
Dubois.
Mais qui est pas. Non, mais qui est pas de la nouveauté à droite. Par rapport aux prestations.
À droite, c'était possible. T'as raison. Oui.
Et tout.
Corchia.
Mais on a très bien compris. Hein?
Non, mais vous avez eu un excellent débat dans Team Dugas sur Umtiti. Mm. Non, c'est avec toi, Daniel, que le débat sur le fait
oui,
que...
C'est un débat excellent, oui, devais y être forcément.
Umtiti, non, mais pourquoi est-ce qu'il prend Umtiti qui joue pas et il prend pas l'anglais qui joue? Voilà. Parce que c'est pas les canons de Deschamps.
Bah oui, non, mais exactement, mais...
Là, donc, là, t'es mal cuit, t'es roussillon et t'es machin, tu peux toujours les citer.
Ah mais non, mais là ils peuvent faire toute la les saisons, les super saisons, terminé, ils seront jamais à
voilà. Ah non. Mais Malcuit, c'est un latéral c'est qui monte à mort, hein, donc
après, c'est dans deux ans peut-être après l'Euro.
C'est pour ça que tu parles d'hécatombe. S'il y a pas d'hécatombe, ben.
Mais c'est quand même beau pour en venir Kurzawa avec les avec la saison, du moins les saisons, il y en a pas qu'une. Plus sa mentale qui est pas non plus au top. Être titulaire en équipe de France, moi je dis chapeau. Là, ça faisait longtemps que j'ai pas vu un joueur avec.
Et tu veux que je te dise le pire, c'est que lui, il doit prendre ça. Genre,
t'as vu c'est
un
logique.
Peu, t'as vu un peu comme je suis fort.
Exactement.
Enfin, je fais 4 matchs, on me rappelle, je suis essentiel, je suis indispensable. Mais non, lui,
c'est sûr.
Lui, il cherche pas. Lui, il est convaincu qu'il est. Il est béton. Il est essentiel.
Là, il a pas envoyé encore de tweet ou de.
Mais demain, ah non, mais là, il te fait fermer ta bouche.
Mais voilà,
hein.
Tu vas lui proposer une interview. Là, là, il va envoyer. Il dit ah,
c'est qui mon défenseur. Non, tu veux dire si jamais il marque, par exemple.
Oh non, mais là, non.
Si jamais il marque, je crois qu'il a préparé un truc.
Là, il y a carnaval.
Non, mais ce cas de figure, il s'est réellement produit. Il y a pas si longtemps que ça. C'était un déplacement à Kaunas, pour, comme chacun le sait, une belle ville de Lituanie. Mm-hmm. Et on a un joueur qui se pète dans le rassemblement. Raymond rappelle Peggy Louindoula. Mm-hmm. Pas censé jouer quand même.
Mais exact, là, j'y étais aussi.
Tu le rappelles pour faire le nombre. Hein.
Et y a c'est pas ce jour-là que la Saladira a démarré en équipe de France
ou quoi ou qu'est-ce qui se pète à l'entraînement, là comme Pavard ce soir, est titulaire Louindoula et qui a deux doigts de marquer.
Comme digne.
Digne. Et si Louindoula avait marqué ce soir, je peux dire que alors vraiment il serait tourné vers la tribune de presse et puis ils auraient eu droit à quelques.
Bah moi j'aimais bien Louindoula moi.
Non mais
pourquoi j'avais de l'affection pour ce joueur.
Non mais en plus ça s'est déjà produit en équipe de France donc après il faut vraiment en cas de malheur mais ça c'est.
Oui, sur la saga MC Live, je vous confirme, il y a bel et bien une ville en Lituanie qui s'appelle Kaunas, en effet. Ça s'appelle Kaunas.
Évidemment Kaunas.
C'est une ville plus foot que Vilnius qui est une ville plus.
On dit pas Kaunas.
Bah non, en fait, on dit bel et bien Kaunas.
Kaunas.
Ah, d'accord. Ouais,
c'est comme ça. Bon, si vous voulez réagir, évidemment, à donc, la possibilité de voir Kurzawa titulaire demain, n'hésitez pas à appeler le 32-16. Et je vous propose, pour être complet sur ce match, d'écouter le sélectionneur moldave. Il s'appelle Alexandru Spiridon. Et il estime que le match de demain est le plus grand match de l'histoire de la Moldavie.
C'est le plus dur adversaire que la Moldavie n'a jamais rencontré. Chaque joueur de l'équipe de France joue dans une équipe de top niveau. C'est une équipe qui joue un football extraordinaire. On a été très impressionnés quand à Londres, Didier Deschamps a expliqué comment il avait préparé son équipe pour le mondial. Et franchement, c'est le meilleur entraîneur du monde.
Voilà, la fin de la traduction prouve bien que ce n'est pas Daniel Riolo qui l'a faite.
Ils ont déjà gagné un match, les Moldaves.
Bon bah, oui, la Moldavie, c'est du niveau niveau européen, quoi. Luxembourg et encore
Liechtenstein. Ils ont la moitié d'un joueur ou pas?
Tu dis.
Je pense que c'est C ou D en Nations League.
Voilà. Ils ont un gardien qui fait plus de 2 mètres, qui joue aux Pays-Bas, qui est titulaire aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas, il joue quoi, au basket?
Non, il joue bel et bien au foot. Et donc, c'est un peu
un gardien de 2 mètres comme ça, il prenait Stephen Brun, ça suffisait, hein.
Mais Stephen Brun est nul en gardien. On l'a déjà vu le samedi.
Ah, vous l'avez testé?
C'est une catastrophe.
Ah bon?
Ouais.
T'es un grand comme ça, il est nul.
Bah, on a voulu le prendre à la place de Jean-Louis Tour. Une passoire, le gars. Il a beau faire 2 mètres.
C'est vrai que c'est pas non plus.
Ouais. Donc ils ont surtout,
et surtout, on est sortis.
Donc ce match est vraiment,
Je rappelle que la France a perdu contre la Biélorussie au Stade de France il y a quelques temps.
Ça remonte.
Oui, mais on s'en souvient quand
pas
même.
Pas tant que ça.
Laurent Blanc en 2010.
La Moldavie, ça m'a l'air vraiment mais faible.
Ça fait 3 matchs, ils n'ont pas perdu chez eux. Hein. Je regarde là de suite.
Ils ont joué contre qui?
Si c'est la Nations League, si c'est de la Ligue D, c'est pas des.
François, on t'a pris pour les instants.
Ah, ils jouaient en Ligue D.
T'es gentil, mais tu vas me dire.
Ils ont joué. Contre qui ils jouaient dans la Ligue D?
Laisse-moi dire.
Vas-y. Ils ont gagné la Ligue D. Ils ont gagné leur Ligue D.
Ils ont fait 0-0 contre la Biélorussie.
À domicile.
Ça, c'est un derby, ça.
Ils ont écrasé San Marin 2-0.
Tout le monde écrase San Marin.
Ah, San Marin, tout le monde gagne. Et ils font que vous devriez organiser un match avec ton équipe contre San Marin.
Et ils font 1-1 contre le Luxembourg.
Donc c'est de la D.
Ah, quand même.
C'est pas de la Ligue C, c'est de la D.
Ah, d'accord. Bon, l'équipe de France avait ramé un jour contre le Luxembourg il n'y a pas très longtemps.
À domicile.
Vaut mieux le rendre facile ces matchs-là parce que
elle est à combien la cote des Bleus demain pour parier
ah ben là
pour faire la méthode de notre ami de l'autre soir
10
J'aimerais quand même là on
je suis en train
on est
faire Daniel donc j'ai regardé plus ou moins.
Jérôme s'il te plaît. On est en semaine internationale et la Belgique joue ce soir, je voulais également qu'on en parle puisque il y a un Belgique Russie qui est pas mal.
Thibaut Courtois a brillé.
Il reste dans ce match un peu plus de 20 minutes et la Belgique mène 2-1 et on a un supporter belge avec nous au 32-16, Gauvin. Salut Gauvin.
Oui, bonsoir à toute l'équipe, vous allez bien?
Ça va et toi?
Bonsoir.
Oui, ça va super.
C'est David Gauvin.
Non, c'est Gauvin.
Ouais. Ah, Gauvin, Gauvin.
Oui, David Gauvin. En plus, les gars, j'étais complètement after compatible ce soir parce que j'étais en train de me faire une petite rabio. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Ah non, une petite rabio.
Une chicha?
Une petite chicha.
Ah oui, c'est une chicha.
Durant le match. Donc maintenant, vous pouvez mettre le jingle quand j'arrive.
Ah, joli. Non, mais toi, on va mettre le jingle moldave. Je crois qu'il t'ira mieux.
Allez, un
peu. Attention, c'est jingle parti. Moldavie.
Alors
Ah, Jérôme. Ouais, excuse-moi.
Non, mais ce que j'aime, c'est le début. Allô.
Bon, comment on n'a pas de jingle somme, donc on n'a pas pu te le préparer spécialement pour toi.
Ouais, la prochaine fois.
Alors, bon, comment ça se passe ce match-là?
En fait, c'est pas terrible. Je veux dire honnêtement, on n'est pas en train de s'éclater. On a deux équipes qui sont physiquement un petit peu à bout, je pense. On arrive aussi en fin de championnat européen un petit peu partout. Et on le voit aussi bien du côté russe que du côté belge.
Enfin, Tillemans a marqué quand même, ce qui est déjà un petit événement.
Pardon?
Tillemans a marqué, c'est un petit événement.
Oui, c'est un petit événement. Mais bon, Youri, c'est quand même un très bon joueur, quand même, de la Belgique. Bon, il n'a jamais démérité. Ce qu'il y a, c'est que dans le milieu de terrain...
Bah, à Monaco...
Oui, mais là-bas, non.
Oui, à Monaco, c'était pas exceptionnel, mais je veux dire par là que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Je pense que à Leicester, il le démontre. Surtout que j'étais voir Watford Leicester, moi,
on dit Leicester en Belgique, alors.
C'était vraiment le meilleur. Il a vraiment été le meilleur avec Leicester ce jour-là. Il avait d'ailleurs donné une passe décisive pour Jimmy Vardy. Donc, il est bien en jambes. Une fois que le joueur est en pleine confiance, il retrouve tout de suite ses moyens. Une fois qu'il est dans une équipe qui joue un peu de football, ça va tout de suite mieux. À Monaco, c'était pas exceptionnel non plus, dû au niveau au niveau de l'effectif, au niveau du jeu, où Monaco était complètement en crise. Mais ici, franchement, il ne démérite pas. Maintenant, voilà, on a la moitié de l'équipe qui est complètement sur blessure, tous. Donc, on joue avec une moitié d'équipe aujourd'hui, clairement. Mmh. On gagne 2 à contre la Russie, qui est la meilleure équipe du groupe avec la Belgique. Je pense que pour la qualification, il n'y aura pas trop de problèmes. Mais une fois de plus, avec les Diables... Est-ce qu'on va pouvoir élever notre niveau de jeu dans les gros matchs, dans les big games? Et ouais. Ça, c'est toujours une question qu'on se pose. Et je pense que Martinez, moi, je ne suis pas un grand fervent. Et de nouveau, il ne répond pas spécialement aux attentes dans les gros matchs. Et donc, c'est ça qui nous a coûté la demi-finale contre vous. Mmh. C'est qu'une fois qu'on joue contre une équipe qui est un petit peu plus resserrée derrière, qui ne veut pas spécialement prendre le jeu à son compte, ben là, à chaque fois, on se fait manger sur une contre-attaque ou sur une phase arrêtée. Et j'espère qu'à l'Euro, cette fois-ci, ce sera la bonne.
Gauvin, il y a un truc que j'ai vu là qui m'a un peu étonné de la part des Belges, qui en général sont quand même, ont pas mal d'humilité. Oui. La Belgique veut construire un nouveau stade oui. Pour l'athlétisme et le foot.
Oui.
Et alors, le nom de ce nouveau stade serait, si je dis pas de bêtises, le stade de la Génération Dorée.
Ouais, le stade de la Génération Dorée, hashtag sans trophée. Parce qu'au final,
le stade de la Génération Dorée. En
fait. C'est vrai que en ce moment, on est en train de se faire une French attitude. Donc ça veut dire qu'on se voit un petit peu trop beau que ce que l'on est. C'est pas péjoratif par rapport à vous, hein, mais
la Golden Generation Arena. Voilà le nom.
C'est complètement farfelu, c'est complètement disproportionné. Qu'on essaie déjà de gagner un trophée, après peut-être qu'on pourra rebaptiser le stade comme ça. Mais une fois de plus, en Belgique, tu sais, et vous savez tous, on fait tout un petit peu à l'envers, quoi. Je veux dire que quand on peut un petit peu se la péter, on ne le fait pas. Puis quand on peut pas le faire, on le fait. Donc au final, on est un petit peu spéciaux. Et j'ai pas envie qu'on perde aussi, je veux dire, la belle étiquette qu'on avait aux yeux de l'Europe, aux yeux du monde, qui était, les Belges, ils sont sympas. Toujours des bons vivants. L'équipe, elle représente bien, je trouve, cette mixité qu'il y a entre les néerlandophones et les francophones dans le pays. Ouais. Parce que tout n'est pas noir entre les néerlandophones et les francophones.
C'est vrai, c'est un beau symbole.
Ce n'est qu'un petit dilemme politique qu'il y a, comme il y a aussi chez vous, entre le nord et le sud. voilà, c'est comme ça dans chaque pays, mais c'est vrai que chez nous, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a deux vraiment, allez, il y a deux langues différentes et il y a deux mentalités qui sont complètement différentes. Nous, les Wallons, par exemple, ben, ceux qui parlent français, on est un peu comme les, ben, comme les sudistes, en France, et c'est vrai que les Flamands, ils ont une mentalité un petit peu plus du Nord, un petit peu plus comme l'Alsace, par exemple, ou la Lorraine, si on pourrait, aller un petit peu,
C'est la Lorraine, c'est très différent. Regarde François Pignet, par exemple. Gauvin, merci en tout cas pour ce...
Oui, je peux juste rajouter juste une dernière chose pour Jérôme Bretagne.
Vas-y, rapidos.
Oui, parce qu'il y a de cela quelques mois, j'étais passé, bah, c'était même durant la Coupe du Monde avec vous, et Jérôme était là et je lui avais demandé son maillot. Un maillot bah, pour compléter ma fameuse collection, parce que j'ai pas mal de maillots chez moi. J'en ai allé à peu près une cinquantaine.
Il te l'avait promis, il te l'a pas envoyé, ça arrive.
Voilà, il m'avait promis, il me l'a pas envoyé. J'aimerais bien vraiment en avoir un, peu importe lequel. Bon, pas celui du PSG, parce que j'aime pas Paris, mais si jamais j'aimerais d'avoir, je sais pas,
Il y a peut-être retrouvé un baguette le 3.
En Caragoucho, il t'en reste d'un Caragoucho?
Tu n'as pas le 3 avec le baguette?
Tu laisses...
Ulrika Lewis,
tu dis Jérôme Thomas, donne ton adresse à Jérôme Thomas.
Nickel, parfait. Franchement, Jérôme, s'il te plaît, si tu sais faire ça, ce serait vraiment génial. Ah, pas de problème. Je pourrais compléter ma collection, il sera dans un cadre.
Un Bastia.
Salut Gauvin, merci beaucoup.
Ça va prendre de la valeur, ta collection.
Bonne soirée. Alors, petit point juste,
Memphis, tiens,
dans quelques instants, je ferai un point score. Ben justement,
je vais
vous parler de Memphis Depay et des autres matchs du jour dans quelques instants. Tiens, vous savez ce qu'il y a après la pub?
Allô.
Ouais.
C'est nul. Allez, à tout de suite. On va parler de Gianni Infantino, bien sûr, avec François Manardo. Ils se connaissent bien, ils sont potes. Il a son 06, et c'est tout de suite dans la fin.
Non.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, Jérôme Rotten et la Daniel Riolo, François Manardo, bien sûr, ce soir, on va parler vidéo après 23h, mais d'abord, je voulais vous parler des autres matchs du soir, parce que mine de rien, il y a quelques belles équipes, quelques sélections historiques qui jouent, donc la Belgique, vous le savez, mène 2-1 face, 3-1 désormais, même face à la Russie, ils ont marqué là, pendant la pub, un nouveau but d'Eden Hazard, et donc il y a également les Pays-Bas, et là, Memphis Depay, dont on parlait hier, a marqué d'entrée dans ce match Pays-Bas-Biélorussie, 4-0, première minute, but de Depay. Il a mis un doublé puisqu'il a marqué sur penalty également, but également de Van Dijk, l'homme qui ne se fait jamais dribbler, comme on en parlait l'autre jour, Jérôme. 4-0 donc pour les Pays-Bas face aux Biélorusses, c'est une minute de la fin. La Croatie, vice-championne du monde dans le temps additionnel, mène seulement entre guillemets 2-1
ils étaient
face à l'Azerbaïdjan.
Ouais, c'est une sélection que tu connais bien, l'Azerbaïdjan.
Et ils étaient menés 1-0.
Chedaïev a marqué.
Qui ça?
Chedaïev.
Chedaïev.
L'Azerbaïdjan.
Très bien, excellent. Et puis voilà pour les principaux résultats du soir. Hein, voilà, il y avait également quelques matchs amicaux. Et donc effectivement, Daniel, Saint-Vincent et les Grenadines a gagné contre la petite île de Bonaire,
ouais,
de Buzyn, dans
facile.
La ouais, Ligue des Nations de la CONCACAF.
Je ne savais pas que Bonaire avait
des Bonaire, qui est une ancienne dépendance hollandaise.
Oui, les Antilles néerlandaises. Donc Aruba a sa sélection. Mm-hmm. Curaçao aussi, puisque je crois que notre ami Patrick Kluivert l'avait entraîné. Mais c'est la troisième île, Bonaire. Bienvenue à bord.
Le match, comment c'était? Dur ou...
Saint-Vincent, Bonaire.
Bah, pas mal. Ouais, non, à la mi-temps, un peu problématique. J'ai appelé le coach.
Ouais, bah oui,
t'as négocié un peu. Je lui ai dit de faire rentrer Cunningham. Et Cunningham a marqué. C'est lui qui a mis le deuxième but.
Mais tu m'avais dit Cunningham.
Cunningham, le Salim Breuer?
Non.
Non, Cunningham.
Le fils de Richie.
Il marquait la tête.
Non, attention,
Richie,
avant de parler,
ben oui,
avant de parler,
bon, y a que toi qui le sais pas, Jérôme.
Avant de parler d'Infantino, je vous offre tout de suite dans l'after vos places pour Francis Land. Francis Land, c'est lundi au Stade de France, un match qualificatif pour l'Euro. Peut-être
enfin,
l'occasion dans l'after de rappeler notre ami Francis. Francis Land, rappelez-vous, il habite près de
Brentard. C'est pas bien de refaire 10.
Non,
plusieurs fois les mêmes blagues.
Non, on
laissons-le tranquille, pas. Monsieur Land.
Surtout qu'il était plus rugby que foot.
Oui,
il nous avait dit ça, Francis. Il nous avait dit.
Laisse Monsieur Land tranquille.
Mais c'était sympa quand on l'a vu quand même.
Ouais.
Allô, Francis? Francis Land?
Oui, j'avais fait là. Ouais.
C'était sympa. Donc, on vous fait gagner vos places. Il suffit évidemment d'aller sur le compte Twitter de l'After @AfterRMC. Vous aurez tous les détails. Donc, il y a des places à gagner pour ce match de lundi au Stade de France. Tentez votre chance tout de suite. Gianni Infantino, mon petit François. Voilà ce qu'il veut faire, le nouveau patron de la FIFA.
Beaucoup de choses.
Alors, la Coupe du Monde à 48. Bon, ça semble se confirmer quand même pour le Qatar, ça pourrait être officialisé définitivement en juin.
Et alors avec qui vont prêter des matchs alors? Ils ne peuvent pas tout faire sur leur territoire.
Les Qataris, dans un premier temps, je parle sous contrôle de François,
oui.
Les Qataris, dans un premier temps, étaient très réfractaires, et au fil du temps, donc je pense qu'ils reçoivent quelques messages de la FIFA, ils commencent à dire, ouais, bon, on va peut-être s'organiser, ça devrait pouvoir le faire. Mais, effectivement, est-ce que ça voudrait dire des matchs ailleurs qu'au Qatar, dans les pays limitrophes, avec lesquels ils sont en conflit actuellement,
ouais.
Ou est-ce qu'ils seraient capables de tout organiser? Et par exemple,
pour refaire des stades,
la
alors.
Possibilité, ce serait de faire.
Ça a bossé là-bas.
La possibilité, ce serait de faire.
Ils vont mettre au turbin de trois mecs. Hein.
Que,
ouais.
Non, parce que la possibilité, ce serait de faire deux matchs par jour dans un même stade.
Ah, d'accord.
Ce qui arrive, par exemple, dans les CAN, où tu as parfois, dans le même stade, deux matchs, un match à 14h, par exemple,
oui.
Un match à 18h.
Mais dans d'autres compétitions FIFA aussi, hein.
Voilà.
C'est quelque chose qui court à la FIFA.
Bon, donc ça, c'est la première.
Pour changer la pelouse, si jamais ça va pas, ça va aller vite.
Non, est-ce qu'on est d'accord pour dire, mineur, François, qu'il y a là des considérations, on va dire,
logistiques, politiques.
Non, pour Infantino, plus géopolitique.
Ah, pour le président de la FIFA.
Que sportive.
Ah, bah, c'est pour lui. Politique.
Parce qu'en gros,
c'est politique.
Excuse-moi, et c'est à quel niveau que tu vas mettre l'économie aussi? L'oseille que ça va faire rentrer de mettre plus d'équipes comme ça? Parce que géopolitique, politique, tout ce que vous voulez.
Ouais, mais c'est bien,
mais ça va.
Hein? C'est forcément une oseille que tu redistribues. Ah, mais... Donc, le sujet, principalement, il est politique.
Oui. Et en fait, il prépare sa réélection. Avec
oui,
ça.
Oui, parce que tu fais rentrer.
C'est le 6 juin.
Non, mais de toute façon, il est seul candidat.
Il est seul.
Prépare pas sa
avis, c'est fait, hein.
Non, mais ça fait rentrer un max d'oseille de plus venant des pays qui vont participer. La dimension économique.
Ça fait rentrer un max d'oseille pour que tu le donnes à des pays qui avaient peu ou pas voix au chapitre,
voilà.
Qui vont tous manger à la même table,
voilà.
Et qui vont manger grassement. Et si on avait l'idée un jour de voir un autre président de la FIFA, pourquoi pas un ancien président de l'UEFA qui connaît un peu le football, ce que tu donnes à des fédérations, tu peux pas leur retirer. Donc ce que Infantino est en train de faire aussi, il est en train de consolider une mécanique dans le foot à l'échelle mondiale qui lui permettra, qu'il protégera, parce que le successeur devra forcément marcher dans les mêmes traces. Tu peux pas enlever, encore une fois, je vous le redis, et un jour, son successeur, s'il a une autre vision du foot...
Attends, tu peux pas enlever. C'est-à-dire, si demain il y a une commune à 48, tu pourras jamais revenir à la formule d'avant.
Tu peux pas revenir. Personne peut revenir en arrière. Quand la FIFA ou l'UEFA, ou le CONMEBOL, CAF, tout ce que vous voulez, ils sont là pour protéger les fédérations. Protéger entre guillemets les fédérations, ça veut dire aussi leur permettre de croûter, de se développer, tout ce que vous voulez, la version officielle, officieuse.
Oui, non, parce qu'il y a un truc quand même. On entend à chaque fois qu'on parle des affaires de la FIFA, on a des réactions genre ouais, de toute façon, corruption, gna gna gna, arrangement entre amis et tout.
Ouais.
Faut quand même, c'est d'ailleurs transparent. Vous allez sur le site de la FIFA, la redistribution,
elle est
publique.
Oui.
C'est-à-dire qu'on sait où va l'argent, dans quelle fédé, souvent même pour précisément pour quel projet, si c'est pour un centre d'entraînement, si c'est pour le développement de terrain.
En fait, deux visions.
Ça, c'est quand même important de le dire.
Ouais. Il y a deux visions. Il y a notre vision de pays historique du foot, avec nous qui commentons, qui nous intéressons toujours au foot d'élite, qui est évidemment, quand on nous annonce un mondial à 48, de dire on va se faire chier la moitié du temps. Parce que les petits matchs.
Oui, parce
les
que tu regarderas
pays,
pas Nouvelle-Zélande, Bahreïn.
Ça va nous faire chier, celui-là. Et évidemment, pour un tas de pays qui vont nouvellement arriver dans la Coupe du Monde, qui ont jamais pu participer à ce genre de fête.
16 de plus, hein, Daniel.
Ouais, forcément, c'est fantastique pour eux. Ça fait un spectacle qui est tout nouveau. En fait, on peut pas voir et comprendre toutes ces logiques mondiales de géopolitique si on se met juste à notre balcon. Ça veut pas dire que je défends cette vision, parce que moi, ça m'emmerde à l'avance, une Coupe du Monde avec autant d'équipes que ça. Mais il faut entendre les arguments de ceux qui pensent pas comme nous et qui se disent que ça va amener ce moment de fête dans ces petits pays-là, et que si nous on se fait chier un peu dans notre petit luxe à nous, quoi.
Mais tout le monde peut être d'accord, tout le monde devrait être d'accord là avec ce que tu viens de dire, parce que si t'as joué au foot ou t'as bossé dans le football, t'es journaliste, t'as voyagé à travers le monde pour faire différentes compétitions, comme Gilbert par exemple, mais t'as une vision de œcuménique du football très bien.
Toujours été la vocation de la FIFA et de Sepp Blatter notamment.
Sepp Blatter, contrairement à, je pense, au nouveau président de la FIFA, avait au moins le respect pour une chose dans le monde du sport, c'est la méritocratie, le mérite. Et une Coupe du Monde à 48 équipes, moi, si j'ai en ouverture, comme ça va être le cas en 2022, Qatar, Nouvelle-Zélande, ou Qatar, Inde, ou Chine,
Ben, c'est ce que je disais, nous ça nous emmerde, moins, mais eux ça leur plaît. Moins. Non mais nous oui, ça nous mais emmerde, ça... mais eux ça leur plaît, François. Mais
c'est qui eux? Ça veut dire que non, ça va, attends, ça va faire plaisir à deux nations et ça va quand même.
Non mais ça a une
c'est pas parce que c'est une vision franco-française que Daniel a évoqué, mais c'est juste, c'est-à-dire que ça va emmerder une majorité de gens dans le monde.
Ça a une importance pour le développement du foot.
Bien sûr que ça a une importance.
L'Inde aujourd'hui c'est une des dernières,
derniers bastions.
Voilà, c'est un des derniers territoires à conquérir pour le foot. Voilà, c'est le deuxième pays le plus peuplé du monde.
Plus d'un milliard.
Ils jouent pas au foot les mecs, enfin ou très peu, donc. Donc,
et mal.
Mal. Non, mais c'est important. Très mal. C'est pas anodin.
Oui, non, mais bien sûr.
Non,
bien
mais
sûr,
tu peux pas dire que ça n'est pas important. Mais quand je parle de mérite, il faut qu'il y ait des compétitions. Quand tu rajoutes 16 équipes, c'est-à-dire que tu rajoutes 1 euro en plus dans ta compétition, parce que l'ancienne formule de l'euro, c'était 16.
Moi, je trouve ça équilibré. Moi, je trouve ça fou.
Si tu fais du sport un spectacle, ça devient, à mon sens, un gros mot. Parce que le sport est un spectacle, mais pas l'inverse. Parce que dans le sport, contrairement au spectacle, t'as cette notion de mérite. Et si tout le monde se met à bouffer à table et que tu fais une Coupe du Monde à 48 et peut-être dans 20 ans, tu passes à 62, oui, tout le monde
participera. Surtout que tu vas allonger le temps. Non mais de toute façon, tout le monde participe déjà par le biais des qualifs. Tout le monde participe déjà si tu vas par le biais des qualifs.
Tout le monde touche de l'oseille aussi par le biais des qualifs et peut développer son football.
Là, c'est vraiment en gros, là, c'est vraiment rentrer dans la soirée, quoi.
Oui.
T'as des petites fêtes devant la boîte de nuit. Là, vraiment, tout le monde va pouvoir rentrer dedans maintenant.
Gilbert, les seuls qui
après, ça te garantit.
Moi, j'avoue que je sais pas.
Une chose. Alors, on parle des petits pays qui vont émerger là et qui vont connaître la Coupe du Monde plus qu'aujourd'hui. Il y en a. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les grandes nations du football. Je te prends l'exemple là de l'Italie, Pays-Bas. Il va falloir vraiment faire exprès pour pas se qualifier. Donc t'es quasiment sûr d'avoir toutes les grandes nations.
Ça enlève de l'intérêt au qualif par voie de conséquence.
Exactement. Déjà qu'on se fait chier en qualif.
Comme tu vas rallonger la compétition, tu vas concentrer l'attention sur le moment où il y aura ça. Et effectivement, les qualifs après pour s'y intéresser, faut vraiment se lever de bonne heure.
Il faut
déjà que là, ils nous font chier, on s'intéresse pas.
Les premiers tours, parce que déjà même avec.
Mais moi, je suis pas si catégorique que ça. Quand tu remets-moi toi l'histoire de la Coupe du Monde. L'histoire de la Coupe du Monde.
Moi, je sais pas trop.
C'est aussi le Zahir qui prend ça
en l'air. Oui,
mais
alors, une émergence.
C'est aussi Haïti,
ils en prennent neuf, Haïti.
Tu me parles des matchs dans les années 80, 90,
c'est
pas
le même. C'est du sport du foot.
Mais non, mais attends, t'es le premier à dire, nous, on s'emmerde quand il y a des matchs.
Ah non, pas moi j'adore ça.
Bah si, bah arrête.
Là où c'est vrai, là où tu peux pas lui donner tort, c'est que nous, à notre âge, moi, ma première Coupe du Monde que je vois, 78, il y a 16 équipes. À chaque fois, j'ai vu augmenter le nombre. Je te dis pas que je me suis éclaté à chaque fois, mais n'empêche, j'ai vu arriver des pays qui étaient, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux, ils vont prendre une raclée. Ah, bah, tiens, lui, il fait une surprise. Mmh. Ah, bah, tiens, voilà. Enfin, je me souviens, le Cameroun en 82.
Oui.
C'était, mais, qu'est-ce que c'est que cette équipe? Et puis t'as Thomas Nkono, t'as machin. Évidemment, la même année, en plus, l'Algérie. Bon, voilà, je sais pas,
avec le Cameroun comme ça, t'as une continuité. Daniel,
à 16 en 78, t'avais l'Iran.
Daniel, tu me parles du Cameroun, mais Cameroun, c'est une terre de foot. On est d'accord.
Mais en 82, qui le savait?
Non, Jérôme.
Mais en 82, qui le savait? C'était une terre de foot.
Mais exactement.
Non, enfin oui, on le savait.
Moi, le Cameroun, je me souviens de 90, par exemple. Donc, parce que 78...
Mais ça veut dire quoi, terre de foot? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas attirer des pays qui le seront pas?
Non,
mais justement, l'idée, c'est d'aller dire à ces pays...
Ces pays-là sont passionnés. Les autres pays... Vous prenez l'exemple de l'Inde. Moi, je veux bien, d'accord. Ok, alors l'Inde va faire la Coupe du Monde, peut-être.
Quel pays a le droit d'aimer le foot ou pas?
Jérôme, tu te trompes.
Comment tu vas décider ça?
Je te dis pas ça, je te dis juste que, de toute façon... aimer le foot ou pas aimer le foot? Ce que je veux dire, tu t'y mets pas.
La Nouvelle-Zélande, ils ont empêché l'Italie d'aller au deuxième tour en 2010.
T'as une chance de faire
les États-Unis, ils ont progressé, maintenant ils sont en baisse. T'as eu plein de pays comme ça quand ils étaient
tu te trompes parce que des terres de foot, en fait, c'est une majorité des 211 associations. C'est le sport numéro un dans le monde. C'est pas un sport qu'on se partage entre nous comme le rugby peut être à l'échelle internationale. C'est le sport numéro un. Donc, des terres de foot, si on leur donnait la possibilité de se qualifier à une Coupe du Monde, c'est pas une Coupe du Monde à 48, c'est une Coupe du Monde à 150. Voire même à 180. Il y en a peu des pays où le foot n'est pas numéro un.
Et alors, au final, est-ce qu'on arrive à avoir un avis définitif sur cet agrandissement? Est-ce qu'on doit le déplorer? Moi, j'arrive pas à avoir un avis clair et net là-dessus.
Ça fait trop de monde.
Pour toi, ça fait trop.
Pour moi, ça fait trop. Et les seuls qui peuvent faire marche arrière, les seuls, pour aller de l'avant dans le débat, c'est les télévisions. Détentrice de droits. Ben c'est oui, les seuls mais, qui mais... peuvent dire à un moment, moi, j'ai pas envie de payer des centaines de millions d'euros pour me fader en 2026.
Ah, mais ils les diffuseront pas.
Je pense que
ils diffuseront pas le match. Verras, peut-être qu'ils mettront Daniel, pas. Ils mettront pas.
Tu sais, il y a les télés qui vont penser à ça. Ils vont penser sur les qualifs. Regardez, moi, on parlait des qualifications. Donc c'est fini la dramaturgie de certains matchs. Le France-Bulgarie que j'ai connu, j'étais au Parc des Princes.
Ah ouais, bah celui-là.
Donc c'est fini. T'auras plus ce genre de match. Qui te donne des émotions incroyables. Alors là, à l'inverse, on est la tristesse incroyable, mais t'auras plus ça. Ouais. Donc les télés peuvent insister aussi là-dessus, c'est en disant
télés.
Attention.
C'est les télés parce que l'argent.
Mais pour moi, c'est Bulgarie.
Il n'y aura plus de France-Irlande non plus. Rappelle-toi de France-Irlande. Ah,
qu'est-ce que c'était
quelle
bien.
Soirée.
Qu'est-ce que c'était.
En tout cas, moi, j'ai découvert la géographie avec ces petites équipes. Le Salvador, par exemple. Oui, rappelez-vous. Oui, tu dis, le Salvador, c'est bien où sûr. Alors tu regardes quand t'es gamin, tu t'intéresses.
Le plus grand score d'une Coupe du Monde, le Salvador-Hongrie en
80. Ah, le Hongrie, ouais, bien sûr. Le 10.
Dans quelques instants, l'autre dinguerie d'Infantino. Alors là, il va falloir que tu nous expliques, François, la Coupe du Monde des clubs à 24. Alors avec quel club, pourquoi faire, comment ça marche, on vous explique dans quelques instants dans l'after.
Ça c'est avant la Ligue des Champions. Allô.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, Jérôme Roten, Daniel Riolo et François Manardo ce soir. Attention, une heure spéciale vidéo après 23h tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses et peut-être que vous ne verrez plus la vidéo de la même façon tout à l'heure. Alors vous savez que bon, depuis...
De quoi? Mon petit doigt dit que ça vous arrange avec Daniel. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi non plus. Les gars, un petit point score pour vous dire que pour vous donner les scores définitifs là des grosses nations qui jouaient ce soir. Les Pays-Bas ont définitivement battu la Biélorussie 4-0 et donc la Belgique a définitivement battu la Russie 3-0. Je signale la victoire par ailleurs du Kazakhstan face à l'Écosse 3-0. Alors nous, on a notre jingle Moldavie, mais dans l'after en Moldavie, ils ont le jingle France. Quand ils lancent l'actu de l'équipe de France, ils font attention, jingle France.
Casser la voix.
Voilà.
Attends, c'est après. Vas-y. Je peux plus croire.
Il est bon.
Tout ce qui est marqué sur les murs.
Oh, c'est affreux. Bon.
Je peux plus voir.
Ah, mais c'est énorme, ça y est.
Ah ouais, on y est là.
La pas vie oublié, des autres, même en peinture.
Oh, mettez-nous les Moldas.
C'était Jérôme Rotten dans Team du gars tout à l'heure.
Quatre j'ai envie d'applaudir.
Laisse sourire d'après minuit.
C'est bien, c'est pas mal.
M'en veux pas. Là, c'est allez. Juste. Si ce soir j'ai envie.
Sorti.
Non, mais c'est la voix.
T'as mis un truc chez toi, t'as mis un karaoké chez toi, je suis
bien sûr.
Sûr
que j'ai un karaoké avec des vrais micros.
Ou avec des micros et tout
dit,
ça.
Tu t'es pris pour Fred Hermel.
Non, mais je trouve que c'est joli sur la fin, au
tu
début.
T'es senti,
là,
hein.
Ouais.
Mais je savais pas que tu voulais faire un duo avec Patrick Bruel.
Si, mais j'adore Patrick, de toute façon.
Depuis... T'es un ami ou c'est...
Non, bah oui. Y a,
t'adore le chanteur, quoi.
Il y a des chanteurs que tu ne connais pas personnellement. Avec Patrick, on a partagé des moments. Il venait dans le car pour aller au match avec le PSG à l'époque. PSG Marseille, il était assis à côté de moi dans le car. On s'est bien.
D'accord, mais je savais
un
bon
petit footballeur, soit dit.
Je connaissais pas ce.
Un vrai passionné du Paris Saint-Germain.
Mais je connaissais pas ce goût, cette amitié.
Écoute, non, mais c'est pas, en plus, au-delà de l'amitié, c'est surtout que j'ai toujours bien aimé le chanteur.
Très bien.
Et le karaoké, ça envoie. Hein.
Bon, c'est surtout dans Prof qu'il est bon.
Un prof, il est très bon.
Ah ben, dans Prof, il est bon. Voilà. Bon, alors, autre dossier, avant de parler de la vidéo, la Coupe du Monde des clubs à 24. Qu'est-ce que c'est que ce délire, François?
Ben, ça a été décidé il y a quelques temps et c'est pas encore complètement validé. Ça a été décidé en Floride.
J'espère que c'est pas complètement validé.
Oui, mais tu verras que ça va l'être. Tu verras que
non.
Ça va l'être.
Attends, mais je croyais que c'était vraiment.
Tout ce qui va se.
Donc c'est. Ah, ce serait tous les 4 ans.
Ou une espèce de bureau de conseil de la FIFA. Le 6 juin, vous aurez à Paris, au Grand Palais, comité exécutif de la FIFA, qui va donc réélire Gianni Infantino et dans le wagon, il y a la validation ou non, mais a priori on est parti pour. Donc pour la Coupe du Monde à 48, on en a déjà parlé, et puis pour ce projet de Coupe du Monde des clubs à 24. Alors il existe déjà une Coupe du Monde des clubs, en tout cas une nouvelle formule de la
Coupe. Là aujourd'hui, elle est tous les ans.
Depuis 2005, moi j'ai eu la chance de bosser sur 4 éditions de cette compétition, qui est une compétition qui réunit donc les 6 champions de chaque continent. Jusque-là, encore une fois, on est dans le mérite. Mmh. Qui a un titre qui permet ensuite d'aller disputer cette compète. Plus 2005, l'édition se déroulait au Japon. Il n'y avait pas le champion du Japon, puisqu'il n'avait rien gagné sinon le titre de champion du Japon. Ça valait pas grand-chose par rapport aux champions continentaux. Et puis la FIFA avait aussi un peu
Alors qui seraient les 24 poussé.
Alors aujourd'hui, il est question d'avoir 6 Européens. 4 CONMEBOL, donc Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Nord.
CONCACAF, monsieur.
CONCACAF, merci. Mmh. CONMEBOL, Amérique
du Sud. C'est moi qui dois te dire ça.
CAF, donc l'Afrique. Ensuite, on a l'AFC pour l'Asie. Et
mais
puis,
bon, il y aura quand même des
participants de l'OFC.
Il y aura quand même des critères objectifs. Je sais pas, par exemple, on peut imaginer pour l'Europe, aujourd'hui, les demi-finalistes de Coupe d'Europe, des choses comme ça.
Aujourd'hui, c'est totalement flou.
Parce que si c'est les trucs sur invitation, c'est grotesque.
Ouais, là, c'est grotesque.
Mais exactement. Là, on va aller vers
une multiplication des matchs de foot, des compétitions.
Alors, pas tous les 4 ans, Daniel. Hein. Alors, pas tous les ans.
Parce que tu connais
à la place de la Coupe des Confédérations.
Ok, mais tous les 4 ans, à intervalle de l'Euro, à intervalle de la Coupe du Monde, qui déjà va s'agrandir et tout, t'entends peu plus, quoi.
Tu peux prétendre te rendre à cette compétition, parce que sur un intervalle de 4 ans, bah, tu vas pas avoir 6 champions d'Europe. Hein, on en aura toujours que 4. Si tu prends les 4 de la CONCACAF, ça peut être compliqué parce que la CONCACAF est trustée par les clubs mexicains pour une question de qualité et de calendrier. Pour qu'un club américain gagne la CONCACAF, c'est extrêmement compliqué. Sur ces clubs mexicains, tu peux en avoir un qui la gagne 2 fois ou 3 fois de suite. Donc, il va falloir chercher dans les fonds de tiroir qui va participer à cette compétition. Et puis, il y a une chose aussi qui relève, mais ça existe depuis 2006 et ça a failli se produire à 2 reprises. Moi, ça me choque. Et je l'ai vécu sur le terrain une fois en 2013 dans le boulot, quand je dis sur le terrain. C'est que tu as, à l'heure actuelle sur la Coupe du Monde des clubs, le champion du pays organisateur. Mmh. 2013, c'est le champion du Maroc. La finale de la Coupe du Monde des clubs en 2013, c'est Bayern Munich, Raja Casablanca. Moi, qu'un champion d'un pays, qu'il soit marocain, français, brésilien ou japonais, puisse accéder au titre de champion du monde des clubs face à un champion continental,
juste parce qu'il
pour
reçoit,
moi, on est déjà dans une incongruité du sport. Ça devrait
pas
fonctionner
dire,
comme ça. Si le Raja Casablanca, Daniel, taper le Bayern de Munich, le Bayern de Munich.
Le Raja, ils étaient là, Daniel, juste parce qu'ils organisent
le champion du Maroc.
Ils sont invités, quoi.
Battait le champion d'Europe et devenait le champion du monde du club.
Ouais.
C'est une incongruité.
Bah, exactement.
Et on se dirige de plus en plus vers ça, à l'échelle du football.
C'est pour ça que c'est,
je trouve, complètement déconnant. On n'est plus vraiment dans une logique sportive. On est dans une logique.
Alors, autant la Coupe du Monde à 48, j'ai tendance à plutôt y adhérer, si j'ai bien compris.
Moyennement,
mais on peut le comprendre pour diverses raisons. Autant là, la Coupe du Monde des clubs, là, c'est du délire absolu.
C'est grotesque.
On est tous d'accord.
Et ça serait quoi, tous les 4 ans? Donc
on est parti sur
la période
à la place de la Coupe des Confédérations.
Mais en gros, ça va intéresser peut-être tous les autres clubs, sauf les clubs européens, qui enverront des équipes amoindries
ou alors avec
des remplaçants. Mais en même temps, ça va correspondre à l'évolution des grands clubs européens qui vont avoir des effectifs à 30, 40 joueurs.
Ouais, c'est ça. Et
ils enverront des mecs.
C'est grotesque.
Une sorte de lissage du niveau des joueurs. Ou je sais pas moi, Chelsea qui a 35 joueurs dans son effectif, ils mettent une équipe qui aura de la valeur pour jouer cette compète.
Donc ce qu'il faut retenir,
ça intéressera peut-être pas nous, mais ça intéressera. Mais encore une fois, c'est pas en Europe que se fait la plupart du business.
Ce qu'il faut retenir de la discussion,
club, Daniel, François, quand il porte Chelsea jouer contre les contrats les plus importants. Aujourd'hui, ce serait les hasards, etc. Si tu prends l'effectif pléthorique de Chelsea, que tu leur mets des
sanctions. Franchement, c'est pas réellement ce que nous indique le développement du business en Asie, où par exemple Manchester United devance tout le monde parce qu'ils sont arrivés les premiers sur ce marché-là. Ouais. Même quand ils ne gagnent plus rien en Europe, on continue de croire que c'est des cadors. Et peu importe qui ils mettent dans l'équipe, ils continuent de penser que c'est des monstres. Hein.
Dans quelques instants, la vidéo. Donc retenez tout ça. Ça va se faire. Hein. Ce sera entériné en juin, et c'est une dinguerie, mais ça va se faire effectivement. Comme nous l'a expliqué François. Et puis il y a un petit message sur Direct Studio d'Olivier qui lui dit Coupe du Monde à 48, mais combien va coûter l'album Panini? Ça, c'est une bonne question.
Il faut qu'on parle de
la vidéo. On n'a pas le temps.
Mais
on
le Wall Street Journal et l'évolution de la Ligue des Champions, si on dit pas ça, on n'a rien dit.
Et ben alors on en parle juste après
rapidement quand même. C'est François, il est là pourquoi?
Ah oui, attends, qu'il fasse son job.
Je reviendrai pas.
Allez, à tout de suite.
RMC. l'After Foot.